Vous avez trouvé Jean 8? On va lire les 9 premiers versets. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors des scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus, le matin, s'en va sur la montagne des Oliviers, fort probablement comme à son habitude, mais dès le matin, alors il était peut-être sorti quand c'était encore l'aurore, et puis il s'en va dès le matin dans le temple de nouveau, et pour enseigner le peuple. Tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et les enseignait. Jésus était dans le temple, en train d'enseigner le peuple, qui était intéressé, qui était disposé à enseigner, à recevoir l'enseignement de Jésus. Et à un moment donné, il arrive quelque chose. Juste avant qu'on aille plus loin, c'était une fois une femme, je connais pas le nom de la femme ni le nom du fils, elle vient plaider pour son fils à Napoléon, pour que Napoléon puisse libérer son fils. Alors, on va voir Napoléon, puis Napoléon, laisse partir mon fils, laisse-le, libère-le de son crime. Napoléon répond, il a commis deux fois le même crime, et selon la justice qui est établie ici, ton fils doit mourir. Voici sa conséquence. Mais là, la femme, elle réplique, mais fais pitié à mon fils. Donne-lui pitié, donne-lui miséricorde. Napoléon réplique en disant, il ne mérite pas la pitié, il ne mérite pas la miséricorde. Il a commis une injustice, il doit mourir. Et là, la femme réplique, je plaide pas selon la justice, je plaide pas nécessairement, oui, je sais qu'il est coupable. Et puis, s'il méritait la miséricorde, et ce ne serait pas de la miséricorde est quelque chose que l'on donne sans le mériter. Et selon l'histoire, Napoléon, par la suite, aurait fait pitié à son fils, aurait donné miséricorde. La miséricorde est quelque chose, comme je disais tantôt, que l'on donne. Oui, son fils était coupable. Oui, son fils, selon la justice, méritait la mort. Et puis, Napoléon avait le pouvoir d'accorder le pardon à son fils puis de le laisser partir. La miséricorde est quelque chose que Dieu veut te donner, que Dieu veut me donner. Mais il y a des conditions aussi à ça pour la recevoir. Jésus aurait pu, la première chose que je veux dire ce matin, Jésus aurait pu, mais il nous montre premièrement qu'on a tous, chacun d'entre nous, un problème qui s'appelle le péché. Chacun d'entre nous, on a un problème qui s'appelle le péché. Et pour ça, il faut ouvrir nos regards sur notre propre cœur pour découvrir que oui, on est des pécheurs, que oui, on a un problème avec le péché. Les Juifs, les scribes, les pharisiens s'approchent, verset 3, et puis emmènent une femme surprise en adultère. Et là, j'imagine les scribes, les pharisiens, leur plan, eux, c'est d'accuser, je fais plus qu'imaginer, ils le disent. Ils veulent prendre Jésus au piège. Jésus, selon la loi de Moïse, cette femme-là, habituellement, on la lapide. Et puis, la loi de Moïse la condamne. Toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que Jésus fait? Il crie par terre. Pas troublé par les questions. Pas dérangé par les scribes et les pharisiens qui ont une haute estime au sein du peuple. Il crie par terre. Verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Il voulait accuser Jésus, il voulait le prendre au piège. Mais Jésus s'est abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. Jésus était interrogé par ses scribes et ses pharisiens. Jésus aurait pu argumenter avec eux. Jésus aurait pu avoir une guerre de mots avec les scribes et les pharisiens, mais il ne l'a pas fait. Ça, c'est ce que j'appelle une prédication punch. Une phrase, puis la vie est transformée. Regardez la phrase que Jésus dit. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Jésus a dit une phrase. Voici la vérité que Dieu révèle sur le cœur de ceux qui sont là. La femme, on l'entend pas parler parce que son crime est évident. Elle a été prise en flagrant délit. Tout le monde sait qu'elle est pécheresse. Mais les scribes et les pharisiens, c'est beaucoup plus dissimulé. Ça paraît moins. Et Jésus parle en disant que celui qui a jamais péché jette la première pierre. Il y a une personne qui aurait pu lancer la pierre à ce moment-là. Jésus. Parce que Jésus a jamais péché. Jésus dit, OK, parmi les scribes et les pharisiens qui sont ici, là, vous m'apportez une femme devant tout le peuple. Vous voulez m'accuser devant elle. Mais que celui qui a jamais péché lance la première pierre. Jésus est en train de dire, s'il y en a un parmi vous, là, les scribes et les pharisiens, que vous avez jamais péché, allez-y, lancez la première pierre, puis les autres vont suivre. Mais il n'y a personne qui a lancé une pierre. Jésus aurait pu. Jésus aurait pu lancer la première pierre. Seulement une phrase. Savez-vous quoi? Jésus aurait pu lancer la première pierre jusqu'à la dernière pierre sur tout le monde qui était là. Puis il ne l'a pas fait non plus. Parce que le cœur de ces gens-là qui étaient venus pour accuser cette femme-là, pour dire « Regarde comment est-ce qu'elle est mauvaise, regarde comment est-ce qu'elle a fait un gros péché, la loi de Moïse la condamne », ben Jésus s'était de nouveau baissé, il écrivait sur la terre et regardez le travail maintenant de la conscience des gens. Verset 9, « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. » Tout le monde est parti, du plus âgé au plus jeune, ils sont tous partis. Chacun d'entre eux, avec leur conscience, reconnaissait qu'ils avaient péché et que personne d'entre eux pouvait lancer la pierre. Est-ce que Jésus y a dit, « Ben non, c'est pas si pire que ça. Ben non, laissez faire la loi de Moïse, là. On va pas la lapider pour ça. » Jésus a pas dit ça. Jésus n'a pas renié la loi de Moïse. Jésus n'a pas dit que cette femme-là n'était pas pécheresse. Mais Jésus veut nous révéler à chacun d'entre nous qu'on est des pécheurs. Ces phrases-là que Jésus dit, la vérité que Dieu vient nous apporter, la parole que Dieu vient nous dire, elle vient révéler l'état de nos cœurs, chacun d'entre nous, même si on pense qu'on est tellement bon qu'on, nous, on peut pointer du doigt. Mais il faut réaliser que notre cœur, lui aussi, est coupable. Que notre conscience devrait nous ramener, nous aussi, qu'on a péché. Et que nous aussi, devant Jésus, on pourrait se présenter là, puis oui, recevoir la première pierre de la part de Jésus. Jésus aurait pu. Je vous ai déjà rapporté quelques fois, vous l'avez déjà vu. Je l'ai ramené peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Les cordes. Il y avait des scribes, des pharisiens, des gens qui, eux, étaient de la haute classe religieuse. Des gens qui, aux yeux des hommes, avaient un cœur pur, c'est-à-dire que leur liste de péchés, eux autres, étaient toutes petites. Il y avait tout le peuple qui était assis, qui, eux, étaient la classe moyenne, des gens qui avaient des péchés un peu comme tout le monde, là. Et puis, il y avait la femme au milieu, accusée par tout le monde. Elle, son péché était évident. Elle, c'est clair qu'il faut la lapider, son péché est bien trop gros. Ça, c'est les yeux des hommes. Nous, on voit les gens autour de nous différents. Hein, on a l'impression qu'il y a des bons. On a l'impression qu'il y a monsieur, madame, tout le monde. On est tous corrects. Puis finalement, il y a les mauvais. Mais savez-vous, aux yeux de Dieu, est-ce qu'il y a une différence à ça? Est-ce qu'il y a une différence entre la femme qui est au milieu, entre les scribes et les pharisiens qui sont là pour accuser, et puis tout le peuple qui est là, qui sont la moyenne du monde? Pour Jésus, il n'y a aucune différence. Pour Jésus, tout le monde est pareil. Jésus vient révéler l'état de notre cœur. Il veut nous dire la vérité en ce qui nous concerne. Cette femme-là était pécheresse. Le peuple qui est en train d'enseigner, qui eux sont des auditeurs puis des gens qui regardent ça, eux autres aussi entendent la réponse de Jésus. Et puis comprennent bien qu'eux aussi ne peuvent pas lancer de pierre, les scribes et les pharisiens non plus. Jésus n'a pas dit à la femme, c'est pas si pire que ça, laisse faire. C'est pas ce qu'il a dit non plus. La vérité, quand elle nous est dite, peut nous faire mal. La phrase que Jésus a dit a révélé le cœur de tout le monde. Et c'est un peu comme cet oiseau-là qui est blessé, qu'on a pris puis qu'on a placé dans un endroit comme par exemple du fumier pour le garder au chaud et puis le protéger. Mais le chat qui arrive puis qui le sort du fumier, c'est pas nécessairement pour le bien de l'oiseau, parce qu'aussitôt sorti du fumier, il le mange. Des fois, on pourrait avoir la perspective que quand Dieu révèle notre cœur, on a l'impression qu'il veut notre mal, on a l'impression que ça sent pas bon, on a l'impression qu'on n'est pas bien, mais en fait, la vérité est là pour notre bien. La vérité, elle est là pour nous affranchir. Ce que Dieu révèle sur notre cœur, c'est pour notre bien. Mais quand les gens veulent nous dire juste qu'ils nous flattent dans le sens du poil, puis qu'ils nous sortent du fumier, selon notre perspective, mais c'est pas nécessairement plus pour notre bien, c'est peut-être pour nous dévorer. La vérité que Jésus vient révéler sur ton cœur, on a besoin de l'accueillir. Voici le problème que chacun d'entre nous, on a. Voici une rencontre que cette femme-là, peut-être qu'elle souhaitait pas avec Jésus, mais qu'en bout de ligne, elle était contente d'avoir rencontré Jésus. Est-ce que vous remarquez le caractère de Jésus dans ce cas-là? Pourquoi est-ce qu'on tarde tant que ça à se présenter devant lui? On devrait avoir bien plus peur de se présenter devant les hommes puis de chercher des gens qui nous disent ce qu'on voudrait entendre. Jésus a reçu cette femme-là et il aurait pu lancer la pierre, mais il ne lui a pas lancé. Voici l'attitude de Jésus. Voici une méconnaissance souvent que l'on peut avoir même de notre Sauveur, de dire « Je veux pas m'approcher de Jésus, j'ai peur de ce qu'il va me dire. J'ai péché et puis je suis pas digne vraiment de me présenter devant lui. J'ai peur qu'il me lance finalement les pierres et qu'il me lapide là. » Remarquez le caractère de Jésus. Dieu révèle que l'on a un problème avec le péché, mais s'il le révèle, c'est pour nous en libérer. Et si on se présente devant Jésus pour lui dire, pour lui confesser notre péché, qu'est-ce qu'il fait? Il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Voici le caractère de Dieu. Voici une méconnaissance souvent que l'on a qu'on doit lutter contre. Parce que certainement que si le diable est le père du mensonge, bien, il voudrait nous amener à méconnaître notre Sauveur, à méconnaître Dieu, puis à dire « t'es pas digne d'y aller ». C'est vrai, je suis pas digne d'y aller. Sauf que Dieu veut m'accueillir parce qu'il m'aime, parce que Dieu veut me pardonner, parce qu'il dit « viens à moi, puis je vais te pardonner ton péché ». Mais pour ça, il faut le confesser. Pourquoi est-ce qu'on tarde tant souvent à se présenter devant lui? Peut-être parce qu'on a peur de sa réaction. Peut-être parce qu'on a peur de ce qu'il va nous dire aussi. Peut-être qu'on ne voudrait pas entendre quelque chose qui va nous dire « tu dois délaisser telle chose ». La vérité que Dieu nous donne est là pour nous affranchir. Et des fois, on lutte avec un péché. Puis comment ça, Dieu, j'ai pas la victoire? Et puis on peut se poser une question simple. Qu'est-ce que je suis pas prêt présentement à abandonner pour avoir la victoire sur ce péché-là? C'est peut-être ça qui finalement me nuit, avoir la victoire sur le péché. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que, oui, je peux le dire à Dieu, mais je suis pas prêt à l'abandonner, je suis pas prêt à m'en repentir encore, à le laisser puis à le donner à Dieu? Voici la victoire que Dieu veut me donner. On va continuer de lire dans Jean 8, on va juste aller un petit peu plus loin, aller dans le verset 23, on va lire 23 et 24. Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Tout le monde est reparti accusé par leur propre conscience parce qu'ils étaient des pécheurs. Mais si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. On va juste aller un petit peu plus loin, verset 30 à 34. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus est en train de dire, si vous êtes mes disciples, si vous êtes vraiment mes disciples, vous demeurerez dans ma parole. Tantôt, je disais que les phrases de Jésus révèle l'état de notre cœur. La parole de Dieu révèle qui on est, révèle qui Dieu est aussi, que l'on a besoin de comprendre pour remplir les endroits que l'on méconnaît de Dieu. Et Jésus dit, vous devez demeurer dans ma parole. Comment est-ce que j'agis, moi, avec ça maintenant, avec la parole de Dieu? Est-ce que j'ai cette attitude que ben, c'est bon pour les autres, c'est beau à entendre, ou bien que c'est donc vrai? Ou de le prendre pour ma propre vie puis de me laisser transformer par ce que Jésus est en train de me dire. Pourquoi est-ce que je devrais demeurer dans sa parole? Parce que la vérité va se révéler à moi. Jacques, il décrit la parole de Dieu comme un miroir que quand on se regarde dedans, ben on voit à quoi on ressemble et on sait qu'est-ce qu'on doit changer. La parole de Dieu, la vérité que Dieu nous dit, c'est cette vérité qui se révèle à moi, qui me révèle aussi qu'est-ce que je suis, puis qu'est-ce que ça me donne. Mais je vais le relire au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.